Bonjour à chacun. Ce matin, dans notre série apologétique, après avoir réfléchi à la question de l'existence de Dieu, je vous propose de nous arrêter sur celle de la présence du mal dans le monde. Ainsi, nous posons la question suivante : si Dieu est bon, pourquoi le mal existe-t-il ? Pourquoi Dieu tolère-t-il le mal dans sa création ? La présence du mal dans le monde est sans doute l'objection la plus fréquente contre Dieu et contre la foi chrétienne. En effet, comment croire en un Dieu d'amour, en un Dieu tout-puissant qui laisse faire tant de mal, qui permet tant de souffrance? Oui, comment croire que Dieu est bon et tout-puissant quand nous voyons sur la terre tant de méchanceté, tant de haine, d'injustice, de misère, de crimes, de maladies, de guerres, d'abus, de catastrophes naturelles, et j'en passe. Il y a tant de mal, tant de souffrance physique et morale sur cette terre. Comment concilier cette réalité avec celle d'un Dieu d'amour, avec celle d'un Dieu souverain? Si nous pouvons convenir assez facilement, me semble-t-il, que pour certains maux, M-A-U-X, et certaines souffrances, l'être humain, en partie, voire totalement, est responsable. Mais qu'en est-il de la souffrance dont apparemment personne n'est responsable? Les exemples sont nombreux. Je pense ici, par exemple, à la mort d'un enfant, d'une maladie incurable, à la naissance d'un bébé difforme ou handicapé, et nous pourrions multiplier les exemples. Comment concilier le constat implacable de l'existence du mal sous toutes ses formes avec l'existence de Dieu et surtout avec sa bonté et avec sa toute-puissance? Dieu n'en a-t-il rien à faire que nous souffrions? Dieu ne pourrait-il pas empêcher le mal et la souffrance? Dieu ne pourrait-il pas empêcher les hommes mauvais d'agir? Dieu ne pourrait-il pas empêcher Satan d'agir? Pourquoi ne l'a-t-il pas anéanti, Satan, après sa rébellion? Voilà quelques-unes des questions soulevé par la réalité du mal et de la souffrance dans le monde face à l'affirmation biblique du Dieu d'amour et du Dieu tout-puissant. Il y a essentiellement deux facettes à cette problématique du mal. Premièrement, le problème philosophique du mal, qui constitue un vrai défi pour penser la foi chrétienne, puisqu'il semble rendre incohérente la croyance en un Dieu bon et tout-puissant. Et puis, il y a le problème existentiel du mal, qui constitue un vrai défi pour vivre la vie tout court, et en particulier la vie chrétienne, la foi chrétienne, puisque Dieu laisse le mal et la souffrance se produire dans ma vie. Le sujet, vous vous en doutez, est bien trop vaste pour être abordé en une seule fois dans sa globalité. Et donc, je vais me contenter ce matin de m'arrêter simplement sur cette première facette du problème philosophique de l'existence du mal. Dieu voulant, j'aborderai la semaine prochaine la deuxième facette du problème existentiel. Voilà, il vous reste maintenant à attacher vos ceintures. Parce que, je vous l'annonce, il va quand même falloir s'accrocher un petit peu. Alors précisons un peu les choses. On peut énoncer la problématique qui nous intéresse ce matin de la manière suivante. Si Dieu peut empêcher le mal, mais qu'il ne le fait pas, il n'est pas bon. Si Dieu ne peut pas empêcher le mal, il n'est pas tout puissant. L'existence du mal exclut donc l'existence d'un Dieu qui soit à la fois bon et tout puissant. Voilà notre problématique. Pour le dire autrement, il y a une contradiction entre l'affirmation que Dieu est bon et tout puissant et l'existence du mal dans le monde. Et ainsi, Yannick Imbert écrit « Face au mal et aux souffrances inéluctables et indescriptibles, si le Dieu de la Bible existe, soit il est bon et impuissant, soit omnipotent mais mauvais, ou même sadique. » Je termine sur la question de la problématique avec les mots « anciens » d'un certain Lucius Cassilius Firmianus, dit Lactance, et qui est considéré, pas par tout le monde, mais par certains, comme un père de l'Église, et qui écrit dans un de ses ouvrages, intitulé « De la colère de Dieu », ce qui suit, je l'avais déjà mis, en faisant parler Épicure. Voilà ce qu'il écrit. « Où Dieu... » Alors là, il faut le relire quand même plusieurs fois, hein, mais c'est « Ou Dieu veut ôter le mal et ne le peut, ou le peut et ne le veut, ou il ne le veut ni ne le peut, ou le veut et le peut. S'il le veut et ne le peut, c'est une faiblesse qui ne convient point à un Dieu. S'il ne le peut et ne le veut, c'est une jalousie qui ne convient non plus à Dieu que la faiblesse. S'il ne le veut et ne le peut, c'est et faiblesse et jalousie tout ensemble. S'il le veut et le peut, pourquoi ne l'ôte-t-il pas? Et d'où vient qu'il y a tant de maux dans le monde? » Voilà, une autre manière de poser la problématique. Elle est posée, et avant d'essayer d'y répondre, je vais faire quelques remarques préliminaires. Et la première remarque, vous l'avez certainement constatée dans l'énoncé de la problématique, c'est que notre réflexion va partir de l'a priori, du présupposé que Dieu existe. La question telle qu'elle est posée est celle-ci: si Dieu est bon, pourquoi le mal existe-t-il? Et non pas: si Dieu existe, pourquoi le mal existe-t-il? Pour des raisons évidentes, nous n'allons pas revenir ce matin sur la question de l'existence de Dieu qu'on a abordée en longueur dans les deux premiers volets de la série, même si pour certains, la présence du mal dans le monde est la preuve que Dieu n'existe pas. Ça, c'était la première remarque. La deuxième remarque, c'est que Dieu est pour beaucoup le bouc émissaire idéal, parfait, de cette problématique du mal. On peut souligner au passage que désigner un coupable, généralement, ça soulage, ça déculpabilise. Si Dieu est responsable et coupable, alors nous ne le sommes pas, et ça nous arrange bien. Ainsi, devant le mal et la souffrance qui l'accable, l'être humain aime à pointer un doigt accusateur vers le ciel pour crier sa douleur, sa révolte et son incompréhension, dans un écho sans fin des paroles d'Adam après la chute. Souvenez-vous, c'est la femme que tu, toi, Dieu, tu as mise auprès de moi, qui m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Autrement dit, c'est toi, Dieu, qui es responsable de tout ça. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La troisième remarque, c'est que la question que nous posons ce matin n'est pas seulement une question que nous posent les incroyants, c'est aussi une question que nous nous posons tous, je pense. C'est aussi une question que les croyants de la Bible se pose. Et en effet, nous constatons que la Bible reconnaît le problème du mal et qu'elle reconnaît le défi qu'elle pose à la foi chrétienne. Et ainsi, Lydia Yeager, que je vais beaucoup citer ce matin, écrit ceci. On peut distinguer deux niveaux dans la reconnaissance scripturaire du problème du mal. Premièrement, la Bible enseigne sans ambiguïté les trois vérités qui constituent le problème du mal. Dieu est bon, le mal existe, Dieu est souverain. Et puis, deuxièmement, la Bible reconnaît dans plusieurs textes qu'il est difficile de confesser ces trois vérités ensemble. Dieu est bon, le mal existe, Dieu est souverain. Et en effet, nous constatons que dans la Bible, ou que la Bible enseigne sans ambiguïté aucune, que Dieu est bon, qu'il n'est en rien impliqué dans le mal, qu'il ne le commet pas, qu'il ne l'a pas créé, qu'il n'est pas son complice, qu'il ne l'approuve jamais. En fait, le mal est toujours en opposition à Dieu. La Bible enseigne sans ambiguïté que Dieu est souverain, qu'aucune réalité n'échappe à son contrôle, pas même le mal, bien qu'il soit un affront contre lui. Et puis la Bible enseigne sans ambiguïté que le mal existe, qu'il n'est pas une simple privation du bien, qu'il est la perversion de la bonne création de Dieu, et comme l'écrit Lydia Yeager, l'intrus horrible qui ne devrait pas exister. Et donc c'est cette articulation de ces trois vérités bibliques qui est difficile et qui pose problème. Ces trois vérités qui sont pourtant enseignées sans équivoque dans l'Écriture. Ces trois vérités qui, tenues ensemble, nous amènent à notre problématique. Comment comprendre que Dieu qui est amour, que Dieu qui a le mal en horreur, que Dieu qui est souverain, que Dieu qui peut tout faire, n'intervienne pas pour mettre un terme au mal. Nous sommes devant une question difficile, mais c'est une question que la Bible n'élude pas. Et j'en veux pour preuve qu'elle consacre un livre tout entier à cette question. Bien évidemment, c'est le livre de Job, qu'il est intéressant de relire dans cette perspective. La quatrième et dernière remarque que je voudrais faire, c'est qu'une des complexités du problème que nous sommes en train de travailler et que nous aimerions résoudre vient du fait que nous nous situons à l'intérieur de cette problématique, à l'intérieur du problème. Et là, je cite Louis Schweitzer qui dit « Nous sommes à l'intérieur de la question. Le mal, nous ne le dominons pas, nous le subissons. Notre existence, notre pensée ne sont que sous cette question, au sein même de cette question, mais pas au-dessus. Nous ne sommes pas devant un mécano dont il s'agirait de bien agencer les pièces, mais à l'intérieur d'un problème qui est notre problème. Nous cherchons une issue à partir de notre situation et tentons de nous frayer une voie non vers la solution, mais vers la libération du mal. » En effet, le fait que nous soyons à la fois victimes et acteurs complique grandement notre appréhension de cette problématique. Comme l'écrit un autre auteur, Eric Schiffer, qui dit ceci, « C'est là l'étrange du mal. Les êtres humains s'y opposent et pourtant le fabriquent. Ils en sont à la fois les victimes et les agents, malgré eux, mais avec leur consentement. » Tous les êtres sont atteints de cette ambivalence du mal. Personne ne peut prétendre être simple victime innocente du mal, car chacun porte une part de responsabilité. Ce qui veut dire qu'il nous faut faire preuve de beaucoup d'humilité en abordant cette question du mal, parce qu'elle nous domine et pas l'inverse. et que vis-à-vis de cette question, nous avons finalement beaucoup de mal à prendre du recul, ce qui va finalement parasiter pas mal notre réflexion. Alors, après ces quatre remarques, j'aimerais que nous commencions à considérer les pistes de compréhension possibles à cette problématique du mal en lien avec la bonté, la souveraineté et la toute-puissance de Dieu. Alors, les théologiens ont un mot technique pour désigner ces théories qu'ils appellent des théodicées. Et une théodicée, je vous ai mis la définition, c'est une théorie qui tente d'expliquer, je dis bien qui tente d'expliquer pourquoi Dieu permet le mal sans cesser d'être bon. Alors, j'ai choisi de laisser ce mot de côté et d'utiliser plutôt le mot théorie, ça sera quand même plus facile et plus simple. Alors, notons, avant de commencer avec la première théorie, que ce que je vais dire maintenant, je l'ai très très largement pris dans les écrits de Lydia Yeager, dans ce livre que j'ai déjà cité dans les volets précédents, « Une foi, des arguments, une apologétique pour tous », un livre qu'elle a dont la rédaction s'est faite à deux voix, puisqu'elle l'a co-dirigé avec Alain Nisus. Un très bon livre que je vous recommande vivement pour étudier toutes ces questions. La première théorie s'appelle la théorie du plus grand bien. Que dit-elle ? La théorie du plus grand bien considère que Dieu permet le mal dans la mesure où il en tire un plus grand bien. C'est un peu ce que la sagesse populaire dit quand elle dit à quelque chose « malheur est bon ». On est un petit peu dans cette idée, Dieu tolère le mal parce qu'il va en tirer un plus grand bien. De quel plus grand bien parlons-nous ? En fait, selon les penseurs, selon les personnes qui réfléchissent à cette question, il y a différentes réponses. Elles varient, j'en ai retenu quatre. Certains pensent que l'expérience de l'adversité et de la souffrance est nécessaire pour que nous acquérions certaines vertus, comme la confiance en Dieu, la compassion envers les faibles, ou encore la persévérance. Le plus grand bien ici, ce sont donc ces vertus que nous acquérons par ces expériences difficiles. D'autres vont dire qu'un monde qui inclut le mal fera davantage ressortir la gloire de Dieu dans le jugement et dans la miséricorde, dans son jugement et dans sa miséricorde. Le plus grand bien ici, c'est la gloire de Dieu. D'autres encore vont dire que le plus grand bien visé, c'est la liberté, celle des hommes et celle des anges, la liberté des êtres créés par Dieu. Parce qu'une création qui inclut des êtres libres a plus de valeur que s'ils ne le sont pas. Or, cette liberté, disent-ils, ne peut pas exister sans la possibilité de commettre le mal. Et puis enfin, le dernier plus grand bien, c'est la rédemption. Certains affirment qu'il aurait été impossible, sans le mal, d'obtenir le bien de la rédemption. Et c'est ainsi, par exemple, que dans la liturgie romaine, on chante au début de la veillée pascale « Bienheureuse faute, felix culpa, bienheureuse faute de l'homme qui valut au monde en détresse le seul sauveur. » Et ainsi, l'idée est que sans la faute d'Adam, sans l'existence du mal, nous n'aurions jamais connu la grandeur de l'amour de Dieu manifesté à la croix. Nous n'aurions jamais fait l'expérience de la joie du salut si Adam et Ève n'avaient pas commis cette première faute. Et donc Dieu tolérerait le mal pour obtenir un plus grand bien, en l'occurrence la rédemption. Voilà les arguments donc par derrière cette première théorie. Une théorie qui peut paraître assez convaincante, d'autant plus qu'elle s'appuie sur plusieurs vérités bibliques. Par exemple, la première, le fait que Dieu transforme le mal en bien. C'est des choses que l'on trouve dans l'Écriture. Souvenez-vous de l'épisode de Joseph et de ce qu'il est dit, de la manière dont Dieu a transformé cette situation, ce mal, en un bien pour Joseph et pour tout le peuple. Et ainsi, Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. Premier appui, première vérité biblique. Deuxièmement, théorie qui peut nous convaincre, qui peut être convaincante en s'appuyant sur des vérités bibliques, comme par exemple le fait que le malheur, la souffrance, l'épreuve peuvent nous rapprocher de Dieu. C'est aussi quelque chose que nous constatons dans toute la Bible, en particulier dans l'expérience du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Cette théorie peut paraître convaincante, d'autant plus qu'elle s'appuie sur des vérités bibliques, comme par exemple encore le fait que Dieu se serve parfois de l'épreuve pour nous éduquer et pour nous faire grandir dans la foi. Si le Fils de Dieu, disent-ils, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert, Hébreux 5, verset 8, qui serions-nous pour prétendre pouvoir en faire l'économie? Et puis, dernier appui biblique, le salut comme un immense... l'exemple du fait que la gloire de Dieu se manifeste effectivement dans le jugement et qu'au final, celui-ci, le jugement de Dieu, va conduire tous les peuples à l'adoration, comme on le lit par exemple dans Apocalypse 15, verset 4. Cette théorie, ce n'était pas le dernier mais l'avant-dernier, cette théorie peut paraître convaincante, d'autant plus qu'elle s'appuie sur des vérités bibliques, comme enfin le fait que le salut en Christ est effectivement un immense privilège et une source de louange continue. Et de plus, la gloire de la nouvelle création dépasse celle de la création initiale. Alors, faut-il conclure devant ces vérités bibliques en appui que cette théorie du plus grand bien est la bonne? En fait, si elle inclut plusieurs vérités bibliques, elle possède aussi des défauts. J'en citerai trois. Premièrement, le fait que le mal peut avoir de bonnes conséquences, mais le fait qu'il peut avoir de bonnes conséquences ne le rend pas légitime. Ne rend pas légitime qu'on y recourt ou même simplement qu'on le permette. Un agent est responsable des moyens qu'il met en œuvre. Ainsi s'interroge Lydia Yeager. Comment Dieu pourrait-il ne pas être responsable du mal s'il le voulait comme moyen d'arriver à ses fins, aussi louable soit-elle? Deuxièmement, deuxième défaut, si l'adversité et la souffrance peuvent produire de bons fruits, si certains sortent grandis par l'épreuve, d'autres s'endurcissent dans l'épreuve et se détournent de Dieu quand ils passent par l'épreuve. Et puis enfin, troisième défaut, gardons-nous de croire que le mal aurait une quelconque force positive en lui-même, qui le rendrait nécessaire comme une étape vers le bien. C'est l'action de Dieu qui fait en sorte que quelque chose de bon et de beau peut parfois résulter d'un mal. C'est Dieu qui fait en sorte que parfois la grâce surabonde. Et donc, conclut Lydia Yeager, que Dieu accorde aux pécheurs un salut qui dépasse la gloire de la première création n'explique en rien pourquoi le mal a dû d'abord se produire, pourquoi penser que Dieu n'aurait pas pu faire autant ou plus sans la faute originelle ? Ce qui fait que si la théorie du plus grand bien incorpore effectivement plusieurs vérités, elle ne réussit pas à expliquer le mal. Elle peut nous séduire parce qu'elle ne touche pas à la personne de Dieu, qui reste à la fois bon, tout-puissant et souverain. Mais par contre, elle nie, ou au moins elle amoindrit, le caractère radicalement mauvais du mal, qui ne devient plus qu'une étape vers le bien. Et donc, nous devons poser cette dernière question avec Lydia Yeager. Si le mal permettait de produire un plus grand bien, ne serait-il pas une certaine forme de bien ? Et puis elle continue, ni l'Écriture, ni l'horreur spontanée et universellement ressentie devant le mal, ni les regrets amers quand on se rend compte qu'on l'a commis, ne s'accommodent d'un tel optimisme. Non, la théorie du plus grand bien n'est pas satisfaisante pour expliquer le mal. La deuxième théorie, c'est la théorie du dualisme, qui répond au problème du mal en disant qu'il existe depuis toujours. Le bien et le mal seraient deux principes premiers, éternels. Et on va retrouver, je ne rentre pas dans les détails, mais cette théorie du dualisme dans beaucoup, beaucoup de mouvements tout au long de l'histoire humaine. Mais le problème de cette théorie réside dans son concept même. En effet, le bien et le mal ne peuvent pas être ensemble des principes premiers parce qu'en fait, le mal est toujours, toujours la perversion du bien. Le mal est toujours la perversion du bien. Et ainsi souligne Lydia Yeager, vous allez finir par connaître son nom par cœur, le mensonge se définit par rapport à la vérité, ne pas dire la vérité. Dans un monde sans vérité, le mensonge serait impossible. En revanche, la vérité n'a pas besoin du mensonge pour exister. Une affirmation est vraie quand son contenu correspond à la réalité. Et puis, si le mal et le bien sont tous les deux des principes, étaient tous les deux des principes non dérivés, c'est-à-dire aussi éternels l'un que l'autre, pourquoi faudrait-il en garder un et exclure l'autre ? Pourquoi ne pas simplement s'accommoder du mal ? Et nous constatons que cette théorie dualiste porte en elle-même le désespoir et le pessimisme, puisqu'elle ne peut pas fonder l'espoir de la victoire finale du bien. Et puis surtout, ajoutons pour terminer, que la Bible s'oppose fermement au dualisme, en affirmant que tout ce qui existe, a été créé par Dieu et par lui seul, et que lui seul est éternel. Nous écartons donc cette théorie du dualisme pour expliquer le mal. La troisième théorie, c'est celle du libre arbitre, qui répond au problème de l'existence du mal avec le raisonnement suivant. Le mal est la conséquence des actes de créatures libres que Dieu ne contrôle pas. Exercer un tel contrôle serait contradictoire avec ce qu'est un acte libre. Un monde dans lequel existent des créatures libres est meilleur qu'un monde sans liberté. Cet avantage d'un monde avec des créatures libres compense le mal qui se produit dans notre monde. Le problème que soulève cette théorie du libre arbitre concerne la souveraineté de Dieu. Dieu a créé effectivement des êtres libres, mais il est souverain. Il pourrait donc empêcher ces créatures de faire le mal. Alors pourquoi ne le fait-il pas ? Et la théorie du libre arbitre va donner une réponse en deux étapes que Lydia Yeager détaille ainsi. Premièrement, l'homme ne serait pas libre si Dieu intervenait régulièrement pour l'empêcher de faire le mal qu'il voudrait faire. La liberté présuppose le pouvoir de choisir effectivement le mal, voire le fait qu'au moins certains choisissent le mal. Deuxième étape, la liberté est un don précieux pour lequel on doit tolérer le mal. La théodicée, la théorie du libre arbitre, rejoint ici une version de la théodicée du plus grand bien. Le mal est le prix à payer pour le plus grand bien de vivre dans un monde peuplé par des êtres libres. Deux objections peuvent être faites ici. Au moins deux objections. La première concerne la notion de liberté qui est supposée par cette théorie et qui induit que choisir le mal est un ingrédient essentiel de la liberté. Or, si cela était le cas, les rachetés dans l'éternité, dans leur liberté, pourraient continuer à pécher. Or, la Bible rejette cette possibilité. Or, si c'était le cas, c'est-à-dire si le mal, choisir le mal est un ingrédient indispensable ou essentiel de la liberté, alors Dieu lui-même, dans sa liberté, pourrait faire le mal. La Bible rejette aussi catégoriquement cela. La deuxième objection à la théorie du libre arbitre concerne son affirmation que la liberté est un don précieux pour lequel on doit tolérer le mal. Mais voilà le raisonnement qu'on peut faire valoir ici. Dans nos rapports interpersonnels, nous ne valorisons pas la liberté du malfaiteur au point de le laisser commettre des crimes. Que penserions-nous de quelqu'un qui peut empêcher un viol ou un meurtre, mais qui s'abstiendrait d'intervenir sous prétexte qu'il ne souhaite pas interférer avec la liberté d'autrui? Nous ressentirions une telle excuse comme scandaleuse. Pourquoi penser qu'un raisonnement parallèle pourrait justifier que Dieu n'intervienne pas? Et donc nous voyons que si la théorie du libre arbitre situe correctement l'origine du mal qui ne peut surgir que quand une créature douée de liberté abuse de celle-ci pour se révolter, puisque Dieu est bon et que tout ce qu'il a créé est bon, cette théorie ne donne cependant pas l'explication satisfaisante au pourquoi du mal. Pourquoi Dieu, qui est souverain, le permet-il? Et en fait, comme je le disais au début, cette théorie va amputer quelque chose à la souveraineté de Dieu, qui n'est plus tout à fait souveraine, puisque cette souveraineté de Dieu va avoir pour limite la liberté des créatures qu'il a créées. Et cette limite à la souveraineté de Dieu rend, de mon point de vue, inacceptable, en tout cas du point de vue biblique, cette théorie du libre arbitre. L'avant-dernière théorie s'intitule la théorie de la nécessité du mal. Et elle va invoquer diverses raisons pour lesquelles le mal serait nécessaire. Et la première de ces raisons, c'est qu'il n'existe aucun meilleur monde. Voilà le raisonnement. Pour chaque monde possible, on peut toujours imaginer un autre qui soit meilleur. Du coup, aucun monde n'est le meilleur. Le choix de créer un monde plutôt qu'un autre contient toujours une part d'arbitraire. On ne doit pas accuser Dieu de ne pas avoir créé le meilleur monde possible, car celui-ci n'existe tout simplement pas. Chaque monde contient une certaine mesure de mal, puisqu'on peut toujours concevoir un monde meilleur. Ça, c'est la première raison, le premier argument. La deuxième raison invoquée pour dire que le mal est nécessaire est que toute créature, dit cette théorie, inclut nécessairement un mélange de bien et de mal. Et voilà le raisonnement. Dieu seul existe par lui-même, toute créature tend vers le non-être, dans la mesure où elle ne tient pas d'elle-même son principe d'existence, mais est tirée du néant. De même, Dieu seul est bon, toute créature contient une certaine proportion de mal, en fonction de son plus ou moins grand éloignement du bien suprême qu'est Dieu. Du coup, le monde créé contient nécessairement une mesure de mal. Petite parenthèse, ça défile vite et je ne prends pas toujours le temps de tout expliquer. Je rappelle juste que sur la partie restreinte du site de l'Église, vous avez les enregistrements Zoom du culte avec tous les textes qui passent à l'écran et qui sont sur l'enregistrement. La troisième raison est que les lois de la nature nécessaires à la vie impliquent le mal. Ainsi, dans un cadre de pensée plus scientifique, on fait remarquer que les mêmes lois de la nature rendent possible la vie et produisent certaines formes de mal. Par exemple, les mutations génétiques sont nécessaires pour l'émergence de la vie selon les mécanismes évolutionnistes, mais elles sont aussi responsables des cancers. Alors que répondre à ces trois arguments ? Pour le raisonnement qu'il n'existe aucun monde meilleur, soulignons simplement qu'il est plausible, que s'il est plausible, d'imaginer que l'on peut toujours ajouter une bénédiction supplémentaire, il n'est pas nécessaire pour autant de conclure qu'il n'existe aucun monde sans mal. D'ailleurs, c'est quand même là l'espérance chrétienne. Et c'est là la promesse de l'Écriture qui annonce comme une certitude un monde à venir dont le mal aura été totalement expurgé. Pour le raisonnement que toute créature inclut nécessairement un mélange de bien et de mal, notons simplement qu'il n'y a aucun fondement biblique pour avancer une telle chose. Et qu'au contraire, l'Écriture dit qu'à la fin de la création, dont la création de l'homme et de la femme, Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata « c'était très bon ». Genèse 1, verset 31, et il n'y a pas de place dans ce « c'était très bon » pour le mal. Enfin, pour le raisonnement que les lois de la nature nécessaires à la vie impliquent le mal, nous notons qu'il est effectivement indéniable que le fonctionnement actuel de la nature inclut la souffrance et la mort, non seulement pour les animaux, mais aussi pour les hommes. Ceci dit, pourquoi penser qu'il ne pourrait pas exister d'autres lois de la nature qui l'éviteraient ? En fait, le chrétien est convaincu, et la Bible l'affirme, il existe un autre fonctionnement possible, autrement, il ne pourrait pas y avoir de perfection dans l'état final, dans l'état à venir. Et donc, nous concluons ici, comme pour la théorie du libre arbitre, que celle de la nécessité du mal doit être écartée parce qu'elle introduit des limites à la toute-puissance de Dieu. Il reste une dernière théorie que je ne vais pas développer, rassurez-vous. On approche du but. Et toutes les théories qu'on a vues pour l'instant, elles viennent amputer quelque chose soit à la souveraineté de Dieu, soit à la toute-puissance de Dieu, ou alors elles viennent minimiser le mal, parfois en prenant tout ça ensemble. On n'a encore rien dit de la bonté de Dieu, et c'est ce que cette dernière théorie va faire. La théorie de l'incompréhensibilité divine. Je ne la développe pas parce que l'heure tourne et que je veux aller à la conclusion, Mais je vais juste en deux mots dire de quoi il retourne. Et cette théorie, elle dit juste que la question du mal trouve sa solution ou trouve une solution dans une compréhension renouvelée de la bonté de Dieu. En disant, et je schématise, que nous ne comprenons pas bien ce qu'est la bonté de Dieu parce que Dieu est incompréhensible. Et que donc le problème, c'est notre compréhension de la bonté de Dieu. Et que si nous modifions les paramètres à ce moment-là, le mal va trouver son explication dans cette nouvelle définition de la bonté de Dieu. Et nous constatons effectivement que la Bible affirme que Dieu est incompréhensible, mais elle affirme aussi que Dieu s'est révélé. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons le connaître, connaître ce qui nous a été révélé, nous pouvons connaître sa bonté, même si c'est imparfaitement. Et donc rien ne justifie de douter de la bonté de Dieu telle que nous la comprenons et d'imaginer qu'elle n'est pas ce qu'elle dit être ou d'imaginer que cette bonté de Dieu pourrait faire de la place au mal. Et donc, sans aller plus loin, nous écartons cette dernière théorie qui ne me semble pas plus concluante que les autres pour expliquer le mal. Alors, il est temps de conclure. Et j'ai entendu quelques murmures de soulagement. Que faut-il conclure ? Toutes les théories que nous avons passées en revue n'ont pas donné satisfaction pour expliquer pleinement, complètement l'existence du mal. Soit pour y adhérer à une de ces théories, il faut abandonner une partie de l'enseignement biblique sur Dieu, sur sa bonté, sur sa toute-puissance ou sur sa souveraineté. Soit pour y adhérer, il faut minimiser le mal, l'importance du mal. Soit pour y adhérer, il faut un petit peu prendre tout ça ensemble. Alors que faut-il conclure ? Si nous voulons rester fidèles à l'Écriture, nous devons maintenir sans concession aucune que Dieu est bon, qu'il est tout-puissant, qu'il est souverain et que le mal est mauvais et qu'il est à jamais un intrus dans la création bonne de Dieu. Que faut-il conclure ? Faut-il concéder à l'athée que Dieu n'existe pas ? Faut-il concéder à l'incrédule que s'il existe, il n'est ni entièrement bon, ni entièrement tout-puissant ? À cela, nous pouvons répondre que ce n'est pas parce que nous ne comprenons pas comment un Dieu bon et tout-puissant peut permettre le mal que nous devons conclure à la non-existence de Dieu ou que nous devons conclure à un Dieu au rabais. Nous devons nous rappeler ici que nos capacités cognitives sont limitées, que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Et nous devons accueillir ce qui nous apparaît comme un paradoxe. Il y en a pas mal dans l'Écriture. Et à ce sujet, je cite encore Louis Schweitzer, qui dit ceci au sujet de ces paradoxes qu'il faut accueillir. « Telle chose est affirmée, telle autre aussi, et nous ne voyons pas comment rationnellement les coordonner. L'une et l'autre semblent vraies ensemble. » Mieux, l'une est vraie en relation avec l'autre. Chacune nous présente un aspect d'une vérité complexe dont l'articulation nous échappe. C'est ce que l'on a appelé une approche dialectique de la révélation biblique. Accepter que deux aspects de la révélation sont vrais ensemble, même si nous ne pouvons pas en faire un système. Cela ne veut pas dire que la vérité de Dieu est elle-même paradoxale. Cela signifie simplement que notre manière de parler de Dieu, à cause des limites qui sont les nôtres, ne peut saisir la totalité du réel. Dieu est et restera toujours au-delà de ce que nous pouvons concevoir. Et si à cause de la révélation, nous pouvons parler de lui à sa suite, nous ne pourrons jamais faire le tour du mystère de son être. Il y a beaucoup de choses comme ça dans l'Écriture, des choses paradoxales, la souveraineté de Dieu dans le salut, la responsabilité de l'homme dans le salut, etc. Alors que faut-il conclure ? La Bible n'a-t-elle rien à dire pour nous aider vraiment sur cette question ? En fait, nous constatons que la Bible ne propose pas de théorie pour expliquer le mal. Elle se contente de nous appeler à la confiance en la bonté de Dieu et à la confiance en sa toute-puissance. Et ce, malgré la présence du mal, malgré le silence de Dieu sur le sujet, malgré le fait que nous ne comprenons pas ce qui nous apparaît paradoxal. On peut noter que ce chemin de foi est celui que les auteurs bibliques eux-mêmes ont dû emprunter. Prenons l'exemple de Job. Job qui va exiger de Dieu, de longs chapitres durant, des explications de la part de Dieu sur le sort qui lui est réservé. Si ses amis s'aventurent à trouver des raisons, le discours de Dieu ou les discours de Dieu dans le livre se contentent de lancer autant de questions en retour. Et au final, Job est placé devant la puissance et la souveraineté de Dieu dans la nature, et ce qui lui est demandé, c'est de faire confiance. C'est de faire confiance sans comprendre, c'est de faire confiance sans explication à propos des malheurs qui se sont abattus sur lui. Prenons un autre exemple, celui du prophète Habacuc. Habacuc, si vous le relisez, qui ne comprend pas, qui se scandalise de la méchanceté encore plus grande des envahisseurs par lesquels Dieu vient juger son peuple infidèle. Et à quoi est-il amené à la fin ? Il est amené lui aussi à la confiance en Dieu sans explication, avec cette parole bien connue de ce livre, « Le juste vivra par la foi ». Le juste ne vivra pas par les explications de Dieu sur tous les mystères du monde. Le juste vivra par la foi. Et donc la première réponse que la Bible nous donne est un chemin à emprunter. Le chemin de la confiance en Dieu malgré les questions qui demeurent. Et puis, surtout, la deuxième réponse que la Bible nous propose, c'est de nous montrer que le mal a été vaincu. C'est de nous donner une espérance. C'est de dire que Dieu ne nous a pas abandonnés à nous-mêmes ou aux forces du mal. Dès la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, dès l'apparition du mal sur la terre, Dieu a ouvert un avenir de grâce. Et il va préparer cet avenir de grâce en préparant la venue de Jésus. Jésus qui, à la croix, a vaincu le mal. Jésus qui, par sa résurrection, a vaincu la mort. Jésus qui, par son œuvre, nous ouvre l'espérance d'un monde où le mal sera exclu à jamais. Oui, c'est là l'espérance du croyant. C'est là la promesse de Dieu, celle d'une création renouvelée où le mal n'existera plus. Nous connaissons bien ce texte de l'Apocalypse 21, versets 1 à 4. « Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, prête comme une mariée qui s'est parée pour son mari. J'entendis du trône une voix forte qui disait « La demeure de Dieu est avec les humains. Il aura sa demeure avec eux, ils seront ses peuples et lui-même qui qui est Dieu avec eux sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Chers amis, il est vrai que Dieu ne nous donne pas d'explication sur la présence du mal dans le monde. J'ai envie de dire pas encore. Mais il est vrai surtout qu'il a vaincu le mal. Et la grande réponse de Dieu au problème du mal, c'est la croix. C'est Jésus. Et Louis Schweitzer dit que la croix, c'est le lieu de la rencontre décisive entre Dieu et le mal. Le lieu de la rencontre décisive entre Dieu et le mal. Et c'est ainsi, comme le dit Jean dans sa première épître, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Dieu ne nous a pas donné la clé pour comprendre le mal et pour l'expliquer. Le mal demeure un mystère opaque, mais il s'est donné lui-même en Jésus pour nous en délivrer. Les hommes voudraient que Dieu, s'il existe, fasse quelque chose, fasse au mal, éradique le mal. Mais éradiquer le mal, ça serait nous détruire aussi, puisqu'il est en nous. Nous empêcher de mal agir, mais ce serait faire de nous des marionnettes. Intervenir pour corriger toutes les mauvaises actions, mais ce serait changer en permanence les lois qu'il a lui-même créées. Les hommes voudraient que Dieu fasse quelque chose, mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a fait quelque chose en Jésus. Alors non, nous ne comprenons pas tout. Non, Dieu ne nous a pas tout expliqué. Non, Dieu ne nous a pas tout révélé. Mais il en a dit assez pour que nous puissions faire le choix de la confiance et le choix de l'espérance. Une dernière chose, le fait que la Bible n'offre pas de théorie pour expliquer le mal milite très fortement en faveur de la révélation biblique. Parce que si vous regardez, tous les systèmes humains ont tenté une explication du mal, tant le scandale du mal est insupportable. Et le fait, dit Lydia Leger, que la Bible seule maintient le problème du mal dans toute son aspérité, est un bel indice de son inspiration divine. Sans le recours de l'esprit, la tentation aurait été trop forte de trouver une explication au mal. Que Dieu nous aide chacun à emprunter ce chemin de confiance qu'il nous propose face au mal, qu'il n'explique pas, mais qu'il a vaincu. Vous pouvez détacher vos ceintures. Amen.